19h sur Radio Panique 105.4.
Chronique mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4. Hello!
Salut!
Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette voix.
Ouais, là je sais plus trop comment ça marche du coup.
Bon, on a un fonctionnement un peu particulier ce soir parce qu'on est toutes, on est que deux à Chronique Mutante et on est toutes les deux en régie. Alors on teste. Vas-y, parle un peu Margot.
Ouais, bah salut, ça fait longtemps, ça me fait très plaisir d'être là. Voilà.
Magnifique.
T'entends bien?
J'entends très bien. Et voilà, ben en fait on va parler bouquins, on va passer des disques aujourd'hui. Et voilà, tranquille quoi.
On commence par quoi ?
On va passer des disques ?
Ouais.
Ok, on fait ça, le temps juste que j'aille au vinyle et c'est parti.
J'ai dit, qu'est-ce que tu fous là? Putain de hérisson de merde! Tu vois pas que je me dirige à grand pas vers mon destin, non? Wow! Le hérisson!
Le destin de quoi?
Et là, j'ai vu passer la lumière. Yeah.
Fonctionne là, tu penses? Oui. Ok. Ok, très bien. Comme je m'entends pas, j'ai l'impression d'être. Ah, merci. Super. Alors, ça fait longtemps, donc j'ai lu pas mal de bouquins depuis la dernière fois, dont j'ai très envie de parler, bien sûr. Et là, j'ai lu vraiment un truc de dingue. Un livre vraiment hyper, hyper. Complètement original, j'avais jamais rien lu qui ressemblait à ça. Je viens de lire le tome 2, je suis sur les dents parce que le tome 3 n'est pas encore sorti en français. Voilà, c'est la série du Tombeau scellé de Tamsin Muir. Donc, je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais j'imagine que ça doit être à peu près ça. Donc c'est une saga qui sera en 4 tomes. Pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis chez Actes Sud en français. Voilà, j'ai juste traîné dans les rayons de la librairie dans laquelle je travaille et puis vu cette couverture avec une meuf avec une grosse épée et puis un masque de tête de mort et je me suis dit tiens, je lirais bien un truc bien gothique, là ça me donne envie. Et puis en fait c'était vraiment génial, vraiment génial. Alors je sais pas si dans les personnes qui nous écoutent ce soir, il y a des personnes qui ont été des adolescents, des adolescentes un peu gothiques... qui aimaient bien dire qu'elles étaient un peu marginales et qui lisaient de la poésie avec un air triste comme ça. Moi, je faisais partie de ces adolescentes-là et voilà, là, il y a un petit peu... Ça m'a rappelé des souvenirs et je me suis dit « Ah, j'aurais tellement aimé lire ça à ce moment-là. » Parce qu'en plus, c'est pas juste triste comme j'avais envie de... Voilà, j'avais envie de donner cette impression de moi-même, mais en vrai, j'aimais bien rire aussi et c'est aussi très drôle. Donc ça fait plaisir. Et donc cette romancière dont je connais pas grand-chose, hein, j'ai cherché un peu des choses sur elle, mais voilà, elle a écrit ça pour l'instant, ce qui est déjà pas mal. Voilà, elle est néo-zélandaise, elle est nouvelliste et puis romancière. Elle fait de la SF et de la fantasy principalement. Elle est lesbienne et c'est important de le dire parce que c'est aussi important dans ses livres. Tous les personnages quasiment sont des meufs et quasiment elles sont tous les personnages sont lesbiennes. Donc voilà, ce qui est quand même assez rare. Pour le signaler. Sachant que c'est pas le sujet non plus du bouquin, mais c'est juste comme ça. Hein. C'est un monde où il y a plus de lesbiennes que le reste des gens. Voilà, donc ça fait quand même plaisir de temps en temps. Donc voilà, j'ai lu ce livre qui est assez difficile à décrire. On pourrait imaginer, pour le décrire, une sorte de... un mélange de SF vraiment old school avec des conflits intergalactiques, des vaisseaux, des planètes et des civilisations qui se font plus ou moins la guerre. Et en même temps, de la dark fantasy avec des personnes, avec des grosses épées qui se battent contre des squelettes et des zombies. Enfin voilà, donc il y a un truc vraiment, un mélange des genres et fonctionne hyper bien, très inattendu parce que c'est... Il y a énormément d'éléments, on pourrait se perdre, ça pourrait être... Ouais, ça pourrait être indigeste et c'est limite des fois, je dirais, sur le deuxième tome notamment. Mais voilà, tout ce qui pourrait avoir l'air indigeste, finalement, ça fonctionne parce que c'est désamorcé avec pas mal d'humour et de second degré dans plein de moments. Et donc, je trouve ça vraiment excellent, quoi. Donc, pour faire un peu le pitch, même si ça va être compliqué, il faut imaginer une sorte de rassemblement de planètes. Et ces planètes sont des planètes qui sont des planètes mortes, qui ont été tuées lors d'une grande guerre. Donc les planètes ne sont plus vivantes, elles sont habitées par des personnes qui ont des pouvoirs de nécromanciens. et de nécromanciennes, parce que ce sont principalement des femmes. Ces nécromanciennes qui ont des super pouvoirs de faire revenir, je sais pas moi, pas les morts à la vie, mais de créer plutôt des zombies, ou avec la matière morte, de faire revivre cette matière morte pour en, je sais pas, pour se battre notamment, ou pour plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure du roman. Ces nécromanciennes, elles sont toutes seules, elles servent à rien, elles peuvent se faire défoncer super rapidement parce qu'elles ont des super pouvoirs, mais physiquement elles sont un peu comme si elles étaient malades ou qu'elles avaient une constitution hyper fragile. Donc elles ont besoin d'être protégées, et elles sont protégées par d'autres personnes qui n'ont pas de pouvoir de nécromancienne, mais qui sont des cavaliers, des cavalières, et qui se battent à l'épée. Donc c'est vraiment, il y a un côté hyper kitsch quoi, enfin très très assumé. Et donc on suit une de ces épéistes qui s'appelle Gideon, qui est le personnage principal du premier tome, et qui vit sur la planète de la 9e maison. Cette planète, c'est vraiment les spécialistes de la nécromancie des eaux, et c'est vraiment des gothiques. Ils sont tous gothiques, il faut imaginer, tous habillés en noir, avec des chapelets, en train de dire toute la journée des sortes de litanies pour le tombeau scellé qui est sur leur planète. Et elle veut s'enfuir, elle en peut plus, elle trouve vraiment c'est une planète hyper mortifère, horrible, elle en a marre, elle est orpheline, elle sait pas ce qu'elle fout là. Voilà, ça se passe hyper mal. Il n'y a pas eu d'autres enfants de son âge, à part une autre gabine qui avait son âge et qui la martyrisait. Donc, elle veut s'enfuir. Et l'histoire commence au moment où elle essaie de s'enfuir. Elle a réussi à détourner un vaisseau spatial qui vient la chercher. Et voilà, elle veut partir. Mais ça va pas se passer comme elle veut. Et son ancienne, voilà, l'autre enfant qui a grandi avec elle sur cette planète, qui est en fait la fille du roi et de la reine de la 9e maison, elle a pas du tout envie que Gideon parte, alors que pourtant elle peut pas la blairer. Et elle lui dit, tu dois me rendre un dernier service, sinon je te laisse pas partir. Et à partir de là, il va se passer plein de choses, et elles vont aller sur une autre planète pour essayer de gagner une espèce de concours bizarre où les princesses et les princes de toutes ces planètes, et qui sont des nécromanciens et des nécromanciennes hyper puissantes, doivent se battre et résoudre des énigmes pour devenir après licteur. Et licteur, c'est une sorte de statut qui fait que tu es complètement immortel et que tu deviens le bras droit de l'empereur de toutes ces maisons, qui est immortel et qui a créé en fait tout ce système de planètes. Donc elles partent ensemble, et là c'est un peu un battle royal, dans un mélange entre, oui, battle royal parce que il y a pas mal de choses qui se passent, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas dans la première maison, donc cette planète où elles arrivent, il y a plein évidemment d'autres nécromanciens et nécromanciennes avec leurs cavaliers et cavalières, et elles se retrouvent là, mais elles se détestent toutes les deux, donc c'est leur histoire un peu, et c'est assez ça peut marcher pour des gens qui aiment les films de zombies, pour les gens qui ont lu tous les livres de vampires quand ils étaient ados. Ça peut fonctionner pour des fans de grosses SF avec des vaisseaux, des machines, des trucs compliqués de scientifiques. Et en même temps, ça peut marcher si on aime les histoires d'amour un peu olé olé entre lesbiennes. Donc du coup, c'est super vaste. Et franchement, c'est très très bien. Je vous le conseille. Le deuxième tome est beaucoup plus dark que le premier, parce que c'est pas le même personnage qui en est le personnage principal, et à chaque fois, on est un peu avec ce personnage-là, et c'est ça qui va compter, sa personnalité qui va nous donner envie de continuer le livre, mais ça va infuser, quoi. Donc le premier personnage, c'est Gideon, et le second, c'est Arrow, donc l'autre personnage qui est une adolescente plus vraiment une ado, mais un peu encore, qui est vraiment hyper dark pour le coup, et donc là, c'est une histoire plus complexe, plus sombre. Mais c'est vraiment très bien, et surtout l'intrigue, elle est très 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 prenante. Et voilà, ce que je disais, disons le bémol ou le truc qui pourrait être un peu difficile, c'est que c'est hyper baroque. Alors moi j'adore ça, ça me dérange pas du tout, mais je pense qu'il y a beaucoup 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 d'informations. L'univers est hyper dense, parfois voilà limite indigeste, et il faut vraiment s'accrocher à des moments pour bien tout comprendre. Et en même temps, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un livre d'aventure, et en même temps qui retourne un peu le cerveau. On est tout le temps en train de se demander ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, de comprendre et de résoudre des énigmes, quoi. Donc c'est assez plaisant comme lecture. Voilà, je vous le conseille beaucoup. Je crois que j'ai rien d'autre à dire là-dessus, sinon je vais en dire trop et puis ça serait dommage. Voilà.
Du coup, moi j'ai commencé à lire le livre et j'ai arrêté.
Ah oui ?
Ouais, je sais pas, ça m'a pas...
on a un avis extérieur.
parce que je crois que j'adhérais pas à l'univers un peu gothique, me stimulait pas.
Ah ouais, mais je pense à défendre des gens, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Le truc où il s'habillait, il se maquillait en squelette et tout, enfin voilà. Ça me parlait pas trop. Le truc qui m'accrochait, c'est que je sentais qu'il y avait une tension lesbienne entre les deux personnages qui se détestent.
Il faut pas le dire, hein.
Oui, il faut pas le dire, mais j'ai lu quelques chapitres, j'ai arrêté, j'ai lu 80 pages. Donc je dis pas non plus un truc de ouf, mais on sent on sent une sorte de je t'aime moi non plus qui est un peu sexy et qui accroche un peu. Mais sinon, ouais, c'est vrai que moi, l'univers m'a pas trop parlé. J'étais en train de me forcer à lire, je me suis dit, vas-y, arrête.
Ah mince, bon bah voilà, quelqu'un qui a pas trop aimé.
Ouais, ça dépend vraiment des personnes, quoi, parce que c'est comme tu disais, c'est un univers très baroque, très particulier. Avec beaucoup d'informations, moi j'ai pas l'habitude de lire cette littérature d'imaginaire là non plus, pas trop quoi. Et donc du coup, parce que c'est un gros pavé quoi, c'est un truc qui se dévore un peu quoi. Mm-hmm. Enfin, voilà. Et voilà, moi j'ai pas trop adhéré, mais je voyais que c'était cool, mais je rentrais pas dedans, peut-être c'est pas le bon moment aussi.
Ah mais il y a un aspect aussi, c'est vrai, avec tout l'imaginaire, enfin, et tout l'esthétique qui est déployée autour, et il y a un côté hyper kitsch moi je trouve. Hein.
Ouais, c'est un peu kitsch et puis c'est rigolo parce que ça se passe, enfin c'est genre à l'ancienne avec les épéistes, genre Moyen-Âge, enfin Game of Thrones quoi un peu, enfin dans le délire là.
Ouais, c'est de la fantasy quoi.
Mais dans un délire d'Arcos pas possible et avec des personnages qui parlent comme nous maintenant, enfin qui portent des binders et qui sont là, ouais bordel, qu'est-ce qui se passe. Il y a un truc assez fun aussi.
Oui, mais...
Millénial, avec des codes queer et genre c'est naturel, c'est pas un élément important de l'histoire, c'est juste dans l'histoire comme n'importe quel autre détail. Mm-hmm. Et ça c'est fun aussi.
Mais t'es arrêtée à quel moment?
L'autre elle devient l'épéiste, la fille du roi et de la reine.
Ah ouais.
Et alors elles vont partir.
Ah ouais, non, mais il faudrait que tu t'arrives au moment où elles arrivent sur l'autre planète parce que là on n'est plus du tout dans un délire, c'est elles qui... Il y a un décalage qui se crée parce que justement, elles sont dans un délire un peu dark, le tombeau scellé, nanana, et elles arrivent et les autres sont pas du tout là-dedans, donc elles passent un peu pour des dingues. Okay. Et donc, ça devient un peu décalé.
Ah, oui, okay.
Elles passent vraiment pour des connes avec leur maquillage et tout.
Ah, okay. Parce qu'en plus, c'est important le maquillage.
Bah, c'est hyper important. Gideon, elle en peut plus de ce maquillage et elles arrivent là-bas et en fait, les autres sont pas du tout dans ce délire-là. Elles ont d'autres problématiques. Donc, ça change. Il y a un switch. Moi aussi, au début, je me disais, mais où ça va? Et j'ai passé le cap et après j'ai trouvé ça bien. Et après c'est plus technologie, zombie, trucs comme ça.
Okay.
Tu vois?
Ah, ok. Bon, peut-être je vais.
Mais c'est vrai que c'est dense, il y a plein de choses. Mais on n'est pas dans un truc. Le côté gothique, il est moqué tout du long en fait.
Okay.
Il y a un peu tu sens qu'elle kiffe. Bah, c'est pour ça que je dis qu'elle a dû être une ado gothique, elle kiffe. Ça lui fait revivre des trucs, visiblement, l'autrice. En même temps, elle se moque de ça tout du long, quoi.
Ouais. Okay.
Voilà. Donc peut-être, tu peux passer.
Le gars, il est couché sur le dos en train de chouiner comme ça. Je sais pas si t'as vu. C'est déjà. Le gars, c'est le chien.
Oh mon Dieu.
On va continuer ce petit vinyle and books. Et c'est reparti.
On commence avec Blancotetta.
Yeah. L'ordre se complète dans l'hétéronormalité.
Le désordre se complote partout ailleurs.
Salut, bah, j'ai rien ramené d'autre à vous raconter. J'ai lu plein de livres, mais je préfère préparer un peu avant quand même. Et donc je peux vous lire l'incipit du livre dont je parlais. Comme ça, ça vous donne un petit peu l'ambiance de départ. Alors, donc, acte 1. En l'an myriade de notre Seigneur, la 10 000e année du roi immortel, le bienveillant prince de la mort, Gideon Nav prit son épée, ses bottes et ses magazines porno et s'évada de la 9e maison. Elle ne courait pas. Gideon ne courait jamais, sauf nécessité absolue. Dans l'obscurité complète d'avant l'aube, elle se brossa tranquillement les dents, se lava le visage et alla même jusqu'à balayer le sol de sa cellule. Elle secoua son long habit noir et l'accrocha à sa patère. Ayant répété ses gestes chaque jour depuis plus d'une décennie, elle n'avait plus besoin de lumière pour les accomplir. De toute manière, aussi tard dans l'équinoxe, aucun rayon n'entrerait ici avant plusieurs mois. On pouvait toujours déduire la saison en fonction des craquements de tuyaux du système de chauffage. Elle s'habilla de la tête aux pieds de polymères et autres textiles synthétiques, se brossa les cheveux, puis, sifflant entre ses dents, Gideon ouvrit son bracelet de sécurité qu'elle plaça soigneusement sur son oreiller, avec sa clé volée, comme un chocolat dans un grand hôtel. Elle jeta son sac sur son épaule, quitta sa cellule et prit le temps de descendre les 5 niveaux menant à la niche funéraire anonyme attribuée à sa mère dans les catacombes. C'était purement sentimental. Elle n'était déjà plus là quand Gideon était petite et ne la réintégrerait jamais. Puis, ce fut la longue ascension des 22 niveaux du puits sans le moindre ray de lumière pour dissiper ce noir poisseux, avant de bifurquer vers le tarmac où, dans 2 heures, elle embarquerait dans sa navette. Le terrain offrait une vue dégagée sur un fragment du ciel de la 9e maison, qui était blanc et épais comme une soupe, aux endroits où on avait injecté le plus d'atmosphère, léger, et bleu marine ailleurs. Dominicus clignait de son éclat bienveillant au-dessus du profond tunnel vertical. Dans l'obscurité, Gideon parcourut lentement le périmètre du champ, pressant ses mains contre la roche froide et glissante des parois. Une fois ce premier tour accompli, elle passa un long moment à aplatir le moindre monticule de terre et shooter dans le moindre caillou jonchant le sol abîmé de la piste. Elle enfonça à plusieurs reprises la pointe d'acier usée de sa botte dans la terre tassée, ne s'arrêtant qu'une fois convaincue de l'improbabilité qu'on ait pu y creuser. Pas 1 cm² du vaste espace n'échappa à son examen. Et lorsque les projecteurs, reliés au groupe électrogène, s'allumèrent dans un grésillement excédé, elle s'assura de visu qu'elle n'avait rien oublié. Puis, elle escalada l'armature grillagée des projecteurs, qu'elle examina à leur tour, aveuglée par la luminosité, vérifiant à tâtons l'arrière de leur cadre de métal, sombrement satisfaite de ne rien y trouver. Elle alla se poster sur un des éboulis aplatis en plein milieu de la piste. Les spots brillaient à faire pâlir toute lumière naturelle, créant d'explosives ombres difformes un peu partout. Les ombres de la 9e étaient profondes et inquiétantes, froides, d'un bleu d'hématome. Planté dans ce joyeux décor, Gideon décida de se récompenser d'un petit sachet de porridge au goût merveilleusement gris et infect. La matinée avait commencé comme toutes les matinées depuis l'avènement de la 9e maison. Pour faire passer le temps, elle refit un tour du vaste terrain, shootant au passage, d'un air absent, dans un petit tas de gravier mal aplati. Puis, elle s'avança jusqu'à la plateforme surplombant le puits pour guetter un éventuel mouvement en bas, tout en s'efforçant de déloger du bout de la langue les résidus de porridge coincés dans ses molaires. Au bout d'un moment, Gideon entendit le claquement lointain des squelettes dans les champs qui récoltaient les poireaux des neiges avec des gestes de somnambule. Elle imagina la scène, l'ivoire sale de leurs os s'affairant dans l'obscurité sulfureuse, le cliquettement de leurs pioches au ras du sol, leurs yeux rouges comme autant de têtes d'épingles errantes. La première cloche retentit dissonante et plaintive, appelant au début des prières. Ça y est, il y avait du mouvement en bas. Gideon observa les ombres rassemblées, se rassembler devant les imposantes portes du château de Drerbur, d'un blanc froid, contrastant durement avec le sol. Serties dans la paroi rocheuse, elles mesuraient 3 corps de large et 6 corps de haut. De part et d'autre, des brasiers perpétuellement allumés produisaient une fumée grasse et écœurante. Sur le linteau, plusieurs centaines, voire des milliers, de petits personnages blancs étaient sculptés dans la pierre, dans une multitude de postures avec cette technique bizarre qui donnait l'impression, où qu'on se trouve, qu'il vous regardait. Petite, chaque fois qu'on obligeait Gideon à franchir ses portes, elle se mettait à hurler, comme sur l'écorché vive. Regain d'activité au niveau inférieur, la lumière donnait à présent une certaine visibilité. Les 9e allaient sortir de leur cellule après leur recueillement matinal et rejoindre les autres pour l'oraison commune, tandis que les serviteurs du château de Drerbur se lanceraient dans les préparatifs de cette nouvelle journée. Un certain nombre de rites aussi solennels qu'ineptes allaient s'accomplir jusque dans les moindres recoins de la maison. Gideon jeta son sachet de porridge vite par-dessus la rambarde et s'assit, son épée sur les genoux, qu'elle se mit à estiquer avec un bout de chiffon, plus que 40 minutes avant le départ. Oui, donc c'est Le tombeau scellé, ça c'est le tome 1, donc Gideon la 9e, et ceux de Tamsi Muir aux éditions Babel.
On remettra tout ça avec le podcast. Et on repart en musique, à tout à l'heure. We'll be right back.
Chronique Mutante, une émission féministe pour décortiquer, analyser, problématiser les injonctions hétéronormatives.
Chronique Mutante.
Bah oui, c'est ça.
Non, la semaine prochaine. Non, la dernière de l'année, c'est la semaine prochaine. On sera le 30 la semaine prochaine.
Ah ouais, je serai pas là.
31, non, un truc comme ça.
Ouais, le 30.
On sera le 31, non ? Ah oui, je crois
non.
Que la semaine prochaine, on est le 31 le samedi, non ?
Non, 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 je pense pas. Je crois que c'est dimanche le 31.
Ah, c'est dimanche, bon, raté.
Enfin, je me trompe peut-être.
On avait déjà eu une émission le 31 décembre qui est assez mythique à Chronique Mutante.
Ah, dommage.
C'était la première année en 2015, un truc comme ça. Et on avait passé des extraits au best-of. Je me souviens, quand j'avais monté ce best-of, j'étais pleine de rire. On avait bien rigolé.
Ah, c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé.
Et ouais, c'est assez fun, mais peut-être une autre année. L'année prochaine, peut-être du coup. Bref, on va se quitter. On va se dire au revoir et vous dire que si vous êtes queer et que vous êtes seule à Noël et que même si vous en fichez de Noël, en fait, c'est difficile d'être seule ce jour-là parce que ça rappelle les ruptures familiales, la solitude ou le capitalisme, je ne sais quoi, qui vous agace et qui vous ronge de l'intérieur, et ben ne soyez pas seule demain. Il y a une petite soirée organisée par et pour des personnes autour de Nasmonic. Ça ne se passera pas à Nasmonic, par contre. Si vous voulez l'adresse, écrivez-nous. C'est une bonne question. Écrivez à Chronique Mutante sur Facebook ou par mail chroniquemutante@radiopanique.org. Et alors, on vous donnera l'adresse. Ça va se passer pas très loin de Nasmonic sur Anderlecht.
Ça sera chez moi.
Ça sera chez Margot, voilà. Et on va se quitter avec le dernier track de la Gender Panic qui est sorti aujourd'hui, avec un clip, franchement, il y a du level là dans le clip, il est cool. Il s'appelle Mange tes morts, la chanson, on l'avait déjà entendu, je crois.
Mais oui, je pense, en fait, c'est le clip, je crois qu'elles ont mis très longtemps à le faire.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Parce que la chanson, on la connaissait déjà, c'est Le Talu et Shady 666. Mais voilà, avec le clip là, tout ça qui est sorti, ça fait plaisir, quoi. Et la chanson est cool aussi. Voilà, on va se quitter avec cette chanson, on va pas vous reparler, on vous embrasse bien fort et on se dit à la semaine prochaine. Alors.
À ciao, bonsoir.
Ah ben moi j'ai pas d'autre choix, hein. Je prends une arme. J'ai pas le choix, je prends une arme. Qu'est-ce que je fais contre un bonhomme ?
On a un petit problème de son, je crois. On n'a pas le son de...
Mais elles sont folles, je comprends pas. Y'a que des folles autour de moi. Elles sont folles, je comprends pas. Elles veulent pas coucher avec moi. Elles me crient dessus quand je leur parle mal. Elles me démontent quand je les rabaisse. Mais où est passée leur sagesse? Quoi que je dise, je les blesse. J'essaye de leur faire des blagues. Elles m'emmènent au tribunal. Oh là là là, j'essaye juste d'être marrant. Je comprends pas. Pourquoi elles sont folles comme ça? J'ai fait quoi? La nuit, j'ai fait des cauchemars. Virginie est au pouvoir. Y'a une loi qui est passée. Les folles veulent me massacrer.
J'ai donc l'autorisation des
tous les masques de ces morts,
masques de ces morts,
masques de ces morts, masques de ces morts,
masques de ces morts, masques de ces morts,
masques de ces morts,
mange tes morts,
mange tes morts,
mange tes morts,
masques de ces morts,
masques de ces morts,
masques de ces morts,
mange tes morts,
mange tes morts,
mange tes morts, masques de ces morts,
masques de ces morts,
masques de ces morts,
mange tes morts,
et mange tes morts.
Viol, puel, gamme, aux scrignos, violeur, tchatcheur, masque, fragile, fils de frotteur, pervers, putain, ennui mortel. Ennui mortel.
Toi tu me dragues, moi je bronche ta sœur. Toi tu me touches, t'arraches la bouche.
Tu comptes console, presque tu te sens seul.
C'est mort,
c'est mort.
Tu te justifies,
tu te justifies.
Tu te contredis,
tu te contredis.
C'est pas des courbes ça, c'est des garderies.
Quand tu dis t'as tort, t'es un dictateur. Attention, je vais mort, attention, t'as peur. Je vais briser ton cœur, je vais brûler ton corps. Je vais ni ta mère, ni ta meuf, c'est mort.
C'est mort,
c'est mort.
Mange tes morts, masque tes morts,
mange tes morts, masque tes morts,
mange tes morts,
mange tes morts,
mange tes morts,
masque tes morts,
mange tes morts,
masque tes morts,
mange tes morts,
mange tes morts.
Voilà les folles de service.
Je t'entends plus quand tu parles, je t'écrase avec mon flow. Ça se la joue grand seigneur, tu nous crois bête, c'est ton erreur. Tu vas finir comme Suzy, je finis à l'incisive. T'as cru je suis pas du milieu, j'ai les antennes, j'ai des pingos, j'ai mes indiques, j'ai mes gossures. Mais tu crois quoi toi? Si tu me la recolles au réveil, je te ferai cracher l'oseille. Dans tout secteur t'es nécessaire, je vais raconter toute l'histoire. Dans tout secteur t'es nécessaire, je vais raconter toute l'histoire.
Masque t'es mort, masque t'es mort, mange t'es mort, masque t'es mort, masque t'es mort. Ouais mange t'es mort, masque t'es mort, masque t'es mort, mange t'es mort, masque t'es mort, mange t'es mort. Ouais mange t'es mort. C'est les représailles pire que le tribunal. Ouais quand t'es cagoulé, vengeance artisanale. J'suis plus la victime, non, dans le fait divers. Moi j'm'acquitte pas mes crimes, non, j'exhibe ta civière. Et plus nuance, plus bienveillance. Fini la pédagogie, ouais, c'est la véhémence. Comme dit la collègue, c'est l'heure de la violence.
Quoi que tu dises, t'as tort, t'es un dictateur. Attention, je mords, attention, t'as peur. Je vais briser ton cœur, je vais brûler ton corps. Je serai ni ta mère, ni ta meuf, c'est mort. C'est mort. Mange tes morts, est-ce que t'es mort? Mange tes morts, est-ce que t'es mort? Mange tes morts, mange tes morts. Mange t'es mort, masque t'es mort, mange t'es mort, masque t'es mort, mange t'es mort, eh mange t'es mort.
N'importe où en ville, on va flamber ta caisse, ouais. N'importe où en ville, on te promène en laisse.
Ah, visiblement, il y avait un petit problème technique avant. Merci Poussin de nous l'avoir dit. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Je disais juste que ça allait être la fin de l'émission. Et que si tu es queer et que tu es seul pour Noël et que même si tu fuck Noël, en fait, tu te sens pas très bien parce que ça te rappelle ta rupture familiale, le capitalisme ou plein d'autres choses ou juste on se sent particulièrement seul ce jour-là. Sache qu'il y a une petite soirée organisée par et pour des personnes queer avec des gens qui tournent autour de Nastwanik. Je vais pas vous donner l'adresse parce que c'est pas à Nast et que c'est dans une coloc et que je vais pas donner l'adresse là maintenant. Mais vous pouvez la voir en nous écrivant chronique mutante at radiopanique.org ou sur Messenger chronique mutante radio show sur Facebook. On est joignable là, voilà. Et on vous donnera l'adresse, c'est demain soir. Voilà. Et ben voilà, cette fois on se quitte pour de vrai. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.
Chronique mutante, une émission soutenue par la Fédération Schlagonie Bruxelles.